Voilà, vous écoutiez des émissions de Radio Canyon en direct du salon des éditions Libertaires. À présent, on reprend nos programmes habituels et comme tous les dimanches de 14 à 15, c'est l'émission musique, etc. Générique. Bonjour à tous, il est 14h passé de quelques minutes à la pendule de Radio Canu, comme tous les dimanches de 14 à 15, c'est l'émission musicale, musique, etc. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir dans les studios les trois membres du groupe L'Ombre du 8. L'Ombre du 8, bonjour.
Bonjour.
Salut.
Bienvenue à Radio Canu, dans musique, etc. Donc, j'ai envoyé un peu rapidement, on va passer une heure ensemble, on va écouter les morceaux de vos disques, il y aura également, je crois, quelques inédits, exprès, tout chaud pour la radio. Mais peut-être avant d'envoyer un morceau, peut-être faire une petite présentation de L'Ombre du 8. Ça fait combien de temps que le groupe existe? Comment vous êtes rencontrés tous les trois?
Bon, en fait, il y a eu deux périodes définies, on va dire. Il y a la première période de création du groupe avec Vincent et notre précédent batteur, Mathias. On a commencé en 2007, il me semble. Donc voilà, on a tourné à peu près pendant 2 ans, on a mis en place un peu le son. On a toujours été un trio, en fait, contrairement à des fois ce qui peut être écrit. Il n'y a jamais eu de basse dans le groupe. Voilà, donc deux guitares, batterie, ça c'est le format de départ. Chant en français, ça c'est le format de départ aussi dès le début, quoi. Résultat de mes précédentes expériences musicales, on va dire. Ça a été un choix.
Qui étaient tes précédentes expériences, c'était quoi tu peux préciser, non?
En groupe, ouais, j'ai eu un groupe sur Lyon pendant quelques années qui s'appelait EWOP. C'était un acronyme en anglais. Et voilà, avec lequel j'ai fait mes armes. On a eu des chouettes expériences, tout ça. On a vu aussi les limites de ce format, les limites d'un groupe.
Les limites de la basse.
Les limites de la basse aussi, c'est pas gentil. Mais non, le fait qu'en fait j'aimais jouer de la rythmique et que ouais, j'avais pas forcément envie de jouer que de la basse non plus, donc ça m'obligeait à être un peu un homme orchestre.
On peut dire qu'à la guitare tu fais une sorte de partie basse?
Je fais un peu ce que je veux, je m'occupe de la rythmique. En fait, ça m'éclate de jouer des rythmiques, mais il y a des moments où j'ai envie d'avoir des textures, des arpèges, ce que je veux, de créer des ambiances, et ça me. Enfin voilà, j'ai trouvé ma sauce, quoi.
Donc toi, Loïc, tu chantes et tu as la guitare.
Voilà, on va dire ça.
Et donc Lionel, toi?
Moi, je suis arrivé à la batterie il y a 2 ans, ouais. Un an et demi.
Ça fait 2 ans.
Batterie.
Et Vincent, deuxième.
Moi, j'ai rencontré Loïc il y a 4 ans, au moment où il cherchait à remonter un trio, du coup. Et ça a bien accroché, puisque mes guitares sont assez complémentaires des siennes, en fait. Moi, je suis plus sur les ambiances et. Loïc sur la base du son.
On écoute à quoi ça ressemble.
Allez,
on s'est parti avec la chanson Le désert. Voilà, L'ombre du 8 avec le morceau Le Désert, donc extrait de. C'est le dernier EP en date, je crois.
Ouais. Ouais.
Peut-être dire un mot sur ce morceau qui s'y colle. Qui s'appelle Le Désert, non ?
On peut dire déjà que c'est le morceau fondateur de ce qu'on est aujourd'hui, parce que c'est le premier morceau qu'on a fait à trois, enfin tous les trois. Là. Le
premier qu'on a composé tous ensemble.
Ouais, c'est ça. C'est la première compo ensemble, collective, je veux dire, qui part d'une idée simple, efficace, une ambiance, enfin, je veux dire. Je pense que c'est à ce moment-là qu'on a trouvé un peu la direction qu'on voulait suivre pour la suite, quoi. Donc il est important, ce morceau, il a une histoire.
Et le thème du texte
C'est cette ambiance qui marche toute seule, et après le thème c'est...
Une sorte d'errance.
Ouais, c'est ça, c'est la solitude face à soi-même, c'est les questions, c'est le fait de ne pas être adapté forcément à là où on est, de ne pas avoir fait les bons choix, c'est des thèmes qui me sont un peu récurrents, quoi.
Et on doit souvent vous poser la question, mais le nom du groupe, L'Ombre du 8, ça vient d'où? C'est assez...
On aimerait bien la réponse.
C'est un bon nom de groupe, je trouve.
C'est vraiment venu comme ça, j'ai pas du tout réfléchi, c'est sorti tout seul, et au bout d'un moment, je lui ai trouvé plein de significations. C'est une image, en fait.
Je pensais peut-être que ça fait le 8, ça fait le symbole de l'infini.
Voilà,
il y a peut-être ça.
Il y a ça. Visuellement, c'est ce qui est venu rapidement. Je trouve que j'aimais bien ce nom parce qu'il était chargé de choses alors qu'il voulait rien dire en soi. Enfin, c'était marrant, quoi.
Ah, parce qu'on pourrait penser que vous êtes 8, quoi. Vous êtes...
Non.
Et oui, tu l'as un petit peu évoqué, mais le choix du français, je trouve que c'est quand même assez courageux à notre époque de chanter en français. Enfin, puis que ça sonne surtout. Le choix du français, qui fait que vous avez... Parce que moi, je reçois beaucoup de groupes, et souvent les groupes, les 4/5 des groupes chantent en anglais en me disant que c'est cette langue qui, à leurs yeux, sonne.
Mais c'est pas faux, hein. C'est pas faux, je le dis souvent, mais c'est que l'approche de... Comment dire ? Quand t'as vraiment une culture de la musique anglo-saxonne, la principale difficulté quand toi tu vas essayer de faire de la musique, ça va être de garder les bonnes références et d'essayer d'éviter le plagiat, le truc en moins bien, tu vois ce que je veux dire, de refaire des choses qui sont faites par des gens dans leur propre langue, dans leur propre culture, et toi t'essayes de te les réapproprier. Et d'un seul coup, ça fonctionne pas. Enfin, ça fonctionne pas autant que tu l'aimerais. Alors qu'en toi, t'as des choses. On est tous créatifs dans n'importe quel pays et tout. Et la difficulté, c'est de s'extraire de cette culture-là qui est très forte parce qu'on a baigné dedans tous. Je veux dire, elle est vraiment invasive, quoi. On s'en rend pas compte, mais je veux dire, c'est des références qu'on a tous. Mais en même temps, il y a toujours ce prisme qu'on a de notre culture française et on sait pas quoi en faire. Et le choix du français, pour moi, c'était parce que j'étais trop frustré, en fait. C'est que quand je chantais en anglais, je chantais, mais c'était pas moi. Et le but à terme, ça va être de vraiment exister en tant qu'artiste et en tant que créatif, on va dire, dans sa propre culture, en même temps en mixant des choses qui sont, qui me suivent depuis très longtemps, quoi.
Moi, c'est bizarre. Musicalement, c'est assez anglais ce que vous faites. Enfin, c'est assez dans l'anglo-saxon, je trouve.
Ouais, je pense. C'est ça.
Puis avec doublé en français, moi, je trouve ça très très intéressant, quoi. Et oui. Non, tu voulais ajouter quelque chose, non? Et non, moi, ce que je veux dire, c'est aussi la preuve que le français peut sonner, justement.
Mais le français peut sonner, le problème, c'est qu'il ne faut pas le prendre de la même manière. L'échec, ça serait de vouloir faire du français sur lequel on joue. Le français n'est pas une langue de voyelles, le français, c'est une langue de consonnes. C'est une langue de rythmique de mots, de placement, c'est de la poésie, enfin, d'une certaine façon. On le joue pas pareil. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais on a besoin de trouver sa propre rythmique, son propre placement de mots, sa propre intention et tout ça. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué, en fait, quoi. C'est Gainsbourg, quoi. Enfin, tu vois, c'est le gars qui avait tout compris là-dedans. Après, lui, il a exploré plein de styles musicaux. Et celui qu'on, nous, on explore de notre côté, il a pas encore été trop fait dans ce domaine-là, je trouve. Et il y a plein de choses intéressantes à faire, quoi.
C'était l'ombre du 8 avec le morceau La mer appelle, toujours extrait de leur EP, de leur dernier EP. Un mot peut-être sur ce morceau qui s'y frotte.
Allez Loïc. C'est moi qui m'y colle.
Moi je suis le batteur, alors je sais pas trop quoi dire.
Ce deuxième titre, voilà, ça reflète un peu ce qu'on faisait à une époque aussi. C'était un peu l'aboutissement d'une certaine formule où on aimait poser une ambiance et souvent dans une première partie on faisait monter un truc, puis dans la deuxième en fait on prenait un peu contre-pied l'auditeur entre guillemets. Enfin, on aimait bien casser un peu ce qu'on était en train de construire et tout. Donc ça nous plaisait bien pendant un moment. J'aime beaucoup toujours ce morceau, mais c'est vrai qu'on part plus maintenant sur des choses peut-être plus fluides, entre guillemets, on va dire. Mais c'est intéressant.
On peut dire qu'il y a un album en projet, vous reviendrez peut-être nous parler ici, mais donc il y a un album qui est en projet, en fait.
Ouais. Il y a un album en chantier. Les prises ont été faites, donc on l'a enregistré au studio de l'Hacienda à Tara, grâce justement au concours du TNT Festival. Donc on a été.
On peut en parler un petit peu.
On peut en parler un petit peu, parce que c'est le moment.
C'est un tremplin qu'on a fait l'an dernier, grâce auquel du coup on a eu la chance d'aller enregistrer à l'Hacienda. Et là ils sont aussi en cours de sélection pour cette année, donc les groupes du Rhône et de la Loire qui ont envie de pouvoir avoir la chance d'enregistrer dans un gros studio professionnel avec des gens très très compétents.
Parce que pour ceux qui connaissent pas l'Hacienda, c'est très réputé.
C'est très réputé, il y a énormément de beaux disques qui sont sortis de ces studios. Et nous on y était il y a 15 jours là. On a enregistré il y a 15 jours et on mettra tout à l'heure peut-être un petit morceau en exclusivité.
Ouais, on a dit qu'il y aura des inédits un peu plus tard dans l'émission.
Voilà.
Des choses en chantier mais qui sont déjà intéressantes.
et peut-être faire un tour de table, votre expérience du studio, enfin, comment vous vivez le fait d'être en studio, c'est un plaisir, c'est un passage obligé, ou à l'ombre du 8 en studio, quelle est votre expérience à chacun de... Peut-être Vincent.
Très dur.
Ah, tu es là.
Non, c'était chouette, mais c'était une belle remise en cause, en fait, puisque les mecs avec qui on bossait avaient vraiment une oreille que nous, on croit avoir, mais en fait, on n'a pas forcément. Et ils sont capables de nous faire écouter les prises, de dire ça, c'est génial, ça fonctionne super, ça, c'est beaucoup moins bon. Et du coup, nous faire retravailler sur certains points particuliers là-dessus. Oui. Par contre, je préfère quand même la scène. Il y a plus d'énergie qui se dégage. Mais ce qu'on a essayé de faire, c'est d'enregistrer au moins les prises en live, la batterie, la guitare rythmique en live, faire quelques overdubs d'autres parties de guitare dessus. Mais
Et le chant tout en dernier, alors.
Ouais. Globalement, ça sera quand même un album assez live. Globalement, on a vraiment fait pas mal de prises tous ensemble. On voulait justement garder cette énergie qu'on a sur scène et on voulait vraiment le garder en studio. Du coup, on a fait ce choix-là de faire de la prise live principalement, quoi.
Et toi, Lionel, tu l'as vécu comment, le fait d'être en studio? Enfin, ça, t'as eu du plaisir?
Très bien. Ouais. Bah, surtout dans ces conditions-là, quand on est dans un gros studio, on a même le choix de dire entre quatre micros lequel je veux choisir pour mon seul tome. C'est juste génial de pouvoir faire des essais de son avec du matos qui des vieux micros à bande, des choses géniales comme ça. Donc non, c'était un grand plaisir, vraiment. Vraiment, ouais.
Je crois que le truc qui était vraiment chouette aussi, c'était d'avoir, quand on a écouté les premières prises, moi j'ai eu l'impression d'avoir la confirmation, en fait, que tous les choix qu'on avait fait depuis des années en termes d'orientation musicale, de matériel et tout ça, bah, d'un seul coup, ça ressemblait à ce qu'on avait dans la tête. Et ça, c'est super. C'est ce moment où on se dit, ok, là, je sais pourquoi j'ai travaillé, en fait, toutes ces années avant, en fait, c'était pour ça, quoi, et ça, c'est super.
Parce que vous avez un son dans la tête,
moi j'ai une idée en tout cas des morceaux quand on les compose de comment ils devraient sonner en vrai. Enfin, une fois couché sur bande ou en concert, après on a toujours les limitations techniques. Nos limitations à nous, c'est qu'il faut qu'on les maîtrise ces morceaux, faut le temps de travailler, faut les tourner, faut se les approprier, les interpréter, leur donner de l'intention. Enfin, c'est plein de choses. Et là, à ce moment-là, on peut enfin écouter ce résultat-là, quoi.
Et le son que tu as dans la tête, comment tu pourrais le décrire, non? Tu pourrais
Il faut que ça te fasse vibrer les tripes, quoi. Ouais. Il faut que ça te prenne vraiment, quoi. Moi, c'est vraiment le truc. Si ça passe ce truc-là, c'est que c'est bon signe, quoi. C'est pas quelque chose de quantifiable. Il faut qu'il y ait de l'émotion, quoi, en fait. Que ça te procure une émotion, quoi.
Et Lionel, toi, ça te le fait, cette idée d'avoir un son dans la tête
Moi, je trouve que le son. Je trouve que le son, déjà, quand on joue ensemble, on sent ce qu'il est. Et Loïc et Vincent, qui jouent ensemble déjà depuis 4-5 ans, c'est vrai qu'ils... Déjà, tous les deux, ils ont des sons de guitare qui créent une atmosphère très particulière. Et moi, quand je suis arrivé avec eux, j'ai tout de suite senti ce truc-là de cette atmosphère un petit peu bizarre, un peu qu'on n'entend pas trop, finalement, sur les ondes ou sur scène. Et du coup, ouais, j'ai ressenti vraiment ce truc-là à la base. Et je crois que, du coup, le son, globalement, on sait tous ce qu'on entend, quoi. Ouais.
Le son dans la tête, Vincent, toi aussi, t'as...
Ouais, c'est à peu près ça. Dans la tête.
j'ai trop de son dans la tête, j'ai trop de guitares chez moi.
Plusieurs.
Du coup, j'ai trop de guitares en studio et je suis capable de dire quelle guitare sur quel son. Bon, j'exagère un peu. Non. Ouais, on arrivait à avoir un son qui, je pense moi aussi, c'est ce que j'avais dans la tête. Ouais.
Et on l'a pas évoqué, mais vos influences, peut-être faire un petit tour de table à chacun. Quelles sont vos références? Qu'est-ce que vous avez beaucoup écouté? Qui vous ont donné à votre tour envie de faire de la musique? Loïc, peut-être?
Waouh, vaste sujet. Ouais. T'as 2 heures devant toi.
On n'a pas le temps là. Merci.
On peut un peu s'étendre, si, on peut prendre le temps.
Pour ma part, en fait, moi j'ai plutôt surtout parlé des choses sur lesquelles on s'est rencontré avec Vincent, parce que la base du projet c'est ça, c'est les trucs qu'on partageait en termes d'influence.
D'accord.
Et notamment, moi, ce qui m'a vraiment plu quand j'ai entendu jouer de la guitare, c'était ce son de guitare que je trouvais aérien et profond à la fois, avec cette utilisation du trémolo, des guitares demi-caisse, enfin, je sais pas, il y avait un côté, pour moi c'était ça le rock, en fait, et moi je savais pas faire ça, et c'est ça qui m'a plu chez lui, quoi.
C'est ça, le rock.
Voilà, c'est que d'un seul coup, je me suis dit, ok, là on va faire du rock, là ça m'intéresse, là il y a de la profondeur, là il y a quelque chose qui se passe, quoi. Et je sais pas, oui, c'est peut-être lié à toute cette culture blues, folk, rock américaine, côté un peu sale, un peu vraiment qui remonte à très très loin. en fait. Il n'y a pas d'influence vraiment très définie, mais c'est ce type de son. On voulait un son qui ait de l'âme, quoi, en fait.
Et tu peux pas citer des noms, non?
Notamment quand, enfin, ouais, quand on s'est rencontrés, il m'a fait découvrir 16 Horsepower, par exemple, que je connaissais pas à l'époque. Et depuis, je suis un très très gros fan de genre de choses. Énormément de trucs comme ça, en fait, de musique américaine, on va dire, des années 80-90. Sur Joy Division, par exemple, ça forcément, c'est un peu des références indépassables. Je veux dire, c'est, voilà, en termes d'ambiance, voilà, c'est des trucs qui moi, m'ont vraiment beaucoup influencé. Et je trouve que c'est des choses qui nous parlent aujourd'hui, quoi.
Et pour l'influence vis-à-vis des textes, en fait, tu auras des trucs en français que tu as écouté qui...
Je suis un très gros fan de Bachung, en fait. Ouais. Mais ça, c'est vraiment le gars, quand j'ai commencé à écrire en français, c'était parallèlement, j'écoutais beaucoup. Et autant en termes musical, c'est quelqu'un de très éclectique, qui a fait plein de choses différentes et tout ça. Moi, c'était pas ça qui m'intéressait, c'était plutôt le côté de cet univers qu'il avait avec les mots et cette manière de les poser, ce genre de. Mais après, il y a tous les grands classiques, finalement. J'ai des choses intéressantes à apprendre dedans, en fait. C'est ça, quoi. Les Brel, les Brassens, les Gainsbourg, les Piaf, enfin, voilà. On en revient toujours à ça, finalement, parce que ça n'a pas été dépassé depuis. Ça peut pas l'être, hein, de toute façon, je pense.
Et toi, Lionel, tes influences, est-ce que tu as écouté, beaucoup écouté?
Après, moi, j'écoute vraiment pas mal de choses, beaucoup de styles, beaucoup de styles. Après, dans la musique que je fais, on va dire, les choses qui m'influencent sont beaucoup plus classiques, quoi. C'est même cliché, voire cliché, Nirvana, Noir Désir, dans le français. Et puis, plein de choses aussi anciennes, de Led Zepp, des choses comme ça, de cette époque-là aussi, que j'aime beaucoup. Beaucoup au niveau du son aussi.
John Bonham,
merci d'avoir existé. Beaucoup de choses après. Moi, j'aime beaucoup d'autres choses, mais dans le rock, oui, j'aime bien toute cette scène-là, à partir de Nirvana, on va dire.
Il y a des groupes en particulier qui nourrissent ton jeu de batteur ou enfin.
John Bonham. Notre et puis John Bonham aussi. Et puis non, Dave Grohl aussi énormément. J'aime beaucoup son jeu, assez simple globalement, mais toujours très efficace et très intelligent, vraiment. Comme John Bonham, toujours très intelligent, mais beaucoup moins simple.
Vincent, tes influences?
Pareil, je pense pas pouvoir citer de nom, puisque j'aime bien piocher à gauche, à droite. Des fois, il peut y avoir des groupes que tu trouves pas terribles, mais il y a un truc qui est génial dedans. Après les influences, j'ai quelques trucs honteux, le rock prog des années 70, la cold wave, ou le heavy metal
Etienne Dao,
des années 80, pareil. Non mais, comme disait Loïc, en général, mes influences se retrouvent un peu dans tous les trucs avec des sons de guitare aérien, je m'y retrouve complètement.
L'ombre du 8 avec le morceau Rodéo, toujours extrait donc du dernier EP qui est paru. Dis un mot sur le morceau Rodéo là qui clôt le 3 titres.
Je voudrais surtout dire quelque chose en fait sur cet enregistrement, parce qu'en fait ces 3 titres qu'on vient d'écouter, on les a enregistrés chez moi, dans mon local, avec l'aide précieuse de mon copain Michael Mizet qui nous a enregistré à l'époque. On a fait ça avec 3 bouts de ficelle, avec le matos qu'il avait, et il s'est donné vraiment beaucoup de mal pour que ça sonne comme ça quoi. Et malgré le fait qu'aujourd'hui j'entende que les défauts, je pense comme tout bon musicien qui se respecte, je trouve que ça a été vraiment le point de départ qui nous a permis après d'en être là où on est aujourd'hui, donc c'est chouette. Merci à lui en tout cas.
Et encore dire un mot sur le morceau peut-être, non ?
Et le morceau, moi c'est un morceau que j'aime toujours autant, qui a encore un petit peu évolué depuis, mais c'est un bon reflet aussi de ce côté, cette espèce de balade au début, cette espèce d'ambiance comme ça qui sinue, puis jusqu'au moment où le chant arrive. Et là justement, Bachung ouais. revient un petit peu là-dedans, parce que je pensais vraiment à lui quand j'ai écrit ce texte, et quand je la chante, je sais pas, il y a quelque chose... Voilà, il y a ça, puis à la fin, on avait envie que ça soit puissant, quoi. Quand ça rentre, voilà, c'était le principe, c'est cette libération par les décibels.
D'accord. Et votre formation musicale, à tous les trois, comment vous avez appris la musique Loïc, on continue avec toi, peut-être.
Waouh. Ouais, je pense déjà, il y a un truc, c'est qu'on n'a pas du tout le même parcours tous les
ouais,
trois. Quoi.
Justement ouais. l'évoquer, ouais.
Ouais, ça c'est marrant, parce que moi je suis totalement autodidacte. Je crois que j'ai jamais pris un cours de guitare de ma vie. Je joue comme je joue. Ça a vraiment été expérience après expérience. J'ai appris petit peu par petit peu, mais... Après, je sais pas jouer autrement, d'ailleurs, je sais pas faire trop de reprises, j'aurais pas joué dans autre chose que ce que je fais moi, je pense. Enfin, mais ça m'a un peu conditionné à, enfin, ou justement déconditionné, peut-être, c'est peut-être plutôt le terme. Je me fiais à mon oreille et à mon instinct, quoi, pour faire les trucs, donc après, ça donne ça, quoi.
Puis t'as tes accordages un peu tordus aussi.
Voilà, c'est ça. De toute façon, le groupe est c'est le résultat de plein d'expériences qu'on a fait, je pense, tous individuellement, quoi. Donc, c'est le résultat de ça, quoi. C'est le mélange de nos parcours de vie. Et de parcours de musicien.
Lionel, ta formation pour la batterie ?
Moi, je suis venu à la batterie un petit peu par hasard à la base, parce que à l'époque, je jouais de la guitare, parce que les filles aimaient bien. Et un jour, avec mes potes, on voulait monter un groupe, le premier groupe, et on était en fait 5 guitaristes.
D'accord.
Donc soit on faisait des reprises Joby Joba, soit il y en a un qui disait, je vais me mettre à la batterie. Et il s'avère qu'il y avait une batterie dans mon entourage, et voilà. Donc je me suis mis comme ça. Et après, voilà, j'ai appris un petit peu tout seul, dans des écoles privées, quoi, des petites écoles. Pas de formation en université, je veux dire. Et puis voilà, et puis aujourd'hui, j'apprends toujours, hein, parce qu'il y a toujours plein de choses à apprendre. Et j'écoute, et j'écoute, et j'essaye de refaire, etc., etc. Voilà.
Vincent, la guitare, comment
Moi, ça a commencé par la flûte à bec en classe de 6e, comme tout le monde, jusqu'à ce que je découvre la guitare électrique et que j'en achète une en cachette avec ma grande sœur, et on revient à la maison, puis les parents disent « Mais c'est quoi ça ? C'est une guitare, on la branche dans la chaîne IFI. » Je suis de cours avec un super prof pendant 3 mois qui a été appelé à l'armée, merci le service militaire à l'époque. Cours pendant 1 an avec un prof qui m'a appris au final que je pouvais mieux apprendre par moi-même, à l'oreille en fait. Puis depuis, j'ai fait des petits groupes avec lesquels j'ai appris, et puis vraiment en écoutant en fait.
Et une question peut-être un peu difficile, mais sur quel principe fonctionne la dynamique l'ombre du 8 ? Qu'est-ce qui fait que ça marche, ça fonctionne, que vous êtes content de jouer ensemble, qu'il y a quelque chose de productif qui en ressort ? Le secret, l'alchimie, l'ombre du 8, quelle est-elle ?
C'est secret.
Non, mais en fait, je pense qu'il n'y a pas vraiment de réponse. Et justement, c'est ça qui est cool, c'est que c'est magique. Quoi. La musique, c'est magique. Quand ça marche, ça marche. Ouais. Des fois, tu ne sais pas pourquoi. Mais c'est parce qu'il y a des choses qui se mélangent et qui se marient bien et qu'on se comprend sans se parler. Surtout, ça, c'est super. C'est ce qui est la force de la musique, c'est que tu arrives à faire comprendre quelque chose à l'autre. Tu n'as même pas besoin de lui parler. Tu joues un truc et lui, il va jouer quelque chose d'autre qui va marcher avec.
Ouais, c'est chouette. Pour en arriver là, je pense qu'au niveau de vos relations humaines, elles doivent être quand même, j'y arrive, assez riches, non, assez profondes, non, pour arriver à s'entendre comme ça sur ce plan-là.
Je sais pas, j'ai l'impression que c'est l'inverse, que ça conditionne.
Ah.
Ouais.
Enfin, ça part de c'est la musique qui fait.
Pour moi, en tout cas. Enfin, c'est, ouais. Ouais. Mmh.
On n'a pas dormi ensemble encore.
Si, il n'y a pas longtemps.
Quoi ? Si. Ah bon, ça.
Sans moi ?
Non, je crois qu'on a tous. Enfin, je sais pas, quand on joue ensemble, en fait, il se passe des choses sympas globalement, Et au fur et à mesure, je pense qu'on a, on sait vers où on va quand Loïc ou Vincent amènent des nouveaux morceaux en fait. On sait où aller globalement. Il y a des morceaux bien sûr plus difficiles que d'autres où il y a un processus de création plus long. Mais globalement, je trouve ça assez naturel globalement quand même. Par rapport à d'autres groupes que j'ai pu avoir où ça l'était pas du tout. Donc c'est un processus assez agréable.
Vincent, un mot sur l'alchimie l'ombre du 8?
Non, pas grand chose à dire en plus. Je crois c'est en général on joue, on improvise, on fait tourner des trucs et puis il y a une bonne idée qui en sort. Des fois on se casse un peu la tête sur des passages pour arriver d'un truc à l'autre, machin. Ce qui est bien, c'est avec Lionel, en fait, depuis 2 ans, on a essayé de redécouvrir un peu le côté si quelque chose sert à rien, on le retire, on le fait pas, quoi.
On a appris l'art de l'épure.
Ouais. Du coup, on a des morceaux relativement plus courts que ce qu'on pouvait faire à une époque.
Ouais, donc tu l'évoques un peu là, la composition, le secret de fabrication, l'ombre du 8, ça se passe comment? Enfin, qui amène quoi au départ? Comment vous faites pour faire évoluer les morceaux?
En ce moment, je pense, j'ai l'impression qu'avec Vincent, on amène chacun nos idées, puis dès qu'il y a un truc qui nous plaît à tous les deux, voire tous les trois, et on se dit, allez, c'est parti, et puis on le fait tourner, si ça reste, on l'écoute la semaine d'après, si c'est toujours bon, on se dit, on tient quelque chose, quoi. Souvent, c'est vraiment, c'est à l'instinct, quoi.
Ce qui est marrant, c'est souvent partir juste une petite idée qui amène un morceau à la fin, en fait. Mmh. Et la petite idée est personnelle, et puis ensuite, ça amène au bout un morceau composé à trois.
Et pour les textes, à quel moment tu mets les textes?
Ça dépend, la plupart du temps je les mets en cours de route, une fois que j'ai l'ambiance en fait, je peux commencer à écrire. Il y a d'autres morceaux où ça arrive vraiment à la fin. Mais c'est rare maintenant, en ce moment c'est plus... Déjà quand j'entends l'idée d'ambiance de guitare, la tonalité du morceau, je commence à avoir déjà des impressions, des mots qui me viennent, des choses, et je structure ça au fur et à mesure. En fait c'est tout en cours en même temps, quoi. Il y a comme une statue en fait que tu es en train de faire et tu vois, tu l'affines au fur et à mesure, c'est un peu ça, quoi.
Et en fait, il y a une moyenne, savoir quand vous débutez un morceau jusqu'au moment où vous le jouez sur scène ou vous l'enregistrez, ça prend, pour ceux qui connaissent pas, qui font pas de musique, ça prend
entre 2 jours et 2 mois.
Non, c'est super variable, en fait. Ouais. T'as des morceaux, tu pourras passer ta vie dessus, je pense, à essayer de les retravailler, ça marche pas, et t'as envie que ça marche, il y en a d'autres, tu joues 2 répètes et c'est simple.
C'était un petit morceau musical de Toujours de l'ombre du 8. Donc on va enchaîner, on va pas parler longtemps, on va enchaîner directement avec un deuxième morceau.
Juste pour dire, ce qu'on vient d'écouter, en fait, c'est une petite instrumentation qui vient juste d'être. C'est même pas mixé, ça, c'est juste les bandes qu'on a sorties du studio. C'est l'exclu d'aujourd'hui. Donc voilà, ça, c'est l'avant-goût de ce qu'on va avoir sur l'album. Et on va vous mettre un petit morceau aussi, issu de notre prochain album à paraître, et on en reparle tout de suite.
L'ombre du 8 avec un morceau tout chaud, hein, tout chaud sorti du studio qui s'appelle Les Récifs.
Ça s'appelle Au-delà sont les récifs.
Au-delà sont les récifs.
Ouais.
Dire un mot, enfin, un morceau très réussi, dire un mot sur ce.
Ben, ça ressemble à ce que va y avoir sur l'album.
D'accord.
Voilà, c'est condensé, c'est de l'atmosphère, c'est tendu. C'est, voilà. Et je trouve ce morceau, il a marché tout seul, quoi. Donc c'est. Voilà, on en est assez content, et surtout que là, c'est même pas mixé, quoi. Ça, c'est une sortie brute, quoi. Il faut que je refasse le chant, ça, c'est un voix témoin, en fait. Donc,
encore qu'il se porte bien, bien le chant, je trouve, là-dessus.
Ouais, ouais. Mais il y a encore manière de l'améliorer, de le mixer avec un vrai son. Enfin, voilà. Donc, on en est content déjà de vous le faire partager rien que comme ça. Et pour nous, c'est chouette.
Et l'album sort quand, on peut le dire? Enfin.
Alors, l'album.
1er avril.
Exactement.
Le 1er avril,
on a déjà la date.
Il sera disponible.
Voilà.
Il sera disponible.
Il y aura une soirée, en fait, de sortie d'album qui est prévue. Le 1er avril au Ninkasi Gerland, au Ninkasi Café. Donc, à part pour quelques rares personnes qui l'auront en exclu avant, le CD sera dispo à partir de ce jour-là. Ouais. Il y aura pourquoi quelques rares personnes qui l'auront en exclu avant, parce qu'on va lancer cette semaine en fait un financement participatif. Pour justement, parce qu'on a fait des super prises dans un super studio, et on a vraiment envie de pas passer à côté d'un super album. Du coup, on va demander l'aide des gens autour de nous, des amis, la famille, les gens qui nous suivent, pour nous permettre de vraiment faire un super mixage, un beau mastering, de faire un beau produit, un beau CD avec des belles images, etc. Donc, voilà, les gens qui voudront nous soutenir à partir de cette semaine, ils pourront.
On fait comment justement pour vous contacter pour un.
Eh ben on est présent sur les plateformes, on va dire classiques comme Facebook, SoundCloud. C'est vrai que sur Facebook on est assez actif, donc les gens peuvent vraiment nous contacter par ce moyen-là, avoir les infos, venir liker la page, etc. Même nous envoyer des messages.
Hein. On répond. Et t'as pas précisé, ouais, donc le financement sera sur Ulule.
Ça sera un financement sur Ulule, ouais. Ouais. Ouais, ouais. Donc avec des petits cadeaux pour les gens qui participent, à base de CD, de t-shirts, de concerts privés, voire de choses un peu moins disables à l'antenne.
Petits exclus. Voilà, voilà.
Et j'ai une dernière question qu'on n'a pas abordée avant qu'on se quitte là, parce qu'il reste quelques minutes. On va se quitter en musique. C'est votre expérience de la scène, le fait d'être en live, de jouer, de faire des concerts. Est-ce que ça vous plaît? Qu'est-ce qui s'y passe pour vous?
Non, c'est affreux.
Est-ce qu'il y a du track? Non, est-ce qu'il y a du track? C'est le sens de ma question. Est-ce qu'il y a du track?
C'est intense.
Le live, je crois que c'est la vie en fait. Hein, c'est...
Ouais.
Moi personnellement, c'est vraiment pour ça que je fais de la musique. C'est pas pour être dans une cave à répéter, c'est pour aller partager sur scène ce que je fais. Et pour avoir ce plaisir et ce petit moment de track avant de monter, effectivement, ces petites 5 minutes qui prennent au trip, et puis une fois qu'on est dessus, voilà, c'est génial.
C'est le plaisir qui prend le dessus, on peut dire. Enfin...
Le plaisir mélangé au track qui fait que c'est. Que c'est vivant et que ça fait du bien.
Tout se rejoue à chaque fois.
Mais il y a des artistes qui me parlent, je le dis souvent, ça, d'une sorte de décharge d'adrénaline qui fait qu'on a un peu comme une drogue, comme un shoot, quoi.
C'est sur scène. Ouais, c'est le mot classique à utiliser, ouais. C'est exactement ça.
C'est que tu te sens
l'énergie.
Plus fort, on va dire, entre guillemets, quoi. Puis c'est le moment où tout ce que tu as fait avant, je veux dire, tu en as du retour, en fin de compte, c'est aussi ça. Mais en même temps, c'est une prise de risque aussi. Enfin, en tout cas, ce qui nous concerne, qui est importante, quoi, parce que. C'est là où justement il faut qu'on retrouve cette magie-là, il faut qu'elle opère. Si elle opère pas, voilà, on demande de ça, quoi, en fait. Quoi.
Ok. on va se quitter en musique. Ouais. L'émission suivante qui est la Sound Massive arrive. Vous allez pouvoir écouter du reggae dans un peu plus de 5 minutes. Et on va se quitter sur un morceau live qui s'appelle La Pesanteur.
La Pesanteur, exactement.
Dire un mot peut-être sur ce morceau avant de
lancer. Ce morceau est issu donc de notre session de résidence à la MJC de Vaux-en-Velin. On tient à remercier notre ingé son qui nous a mixé tout ça, qui s'appelle Jordan Clermidi. Merci à lui aussi pour l'album, parce qu'il bosse comme un fou et là il va avoir beaucoup de boulot devant lui.
Merci Jordan.
Merci Jordan. Voilà, merci à tous ceux qui nous ont écoutés, et donc un petit titre exclu de cette session de live de résidence qui s'appelle La Pesanteur.
Et juste avant, je tiens à dire qu'on pourra écouter cette émission ce soir à partir d'environ 17-18 heures sur les blogs de Radio Canu ainsi que les précédentes à la rubrique musique, etc. Voilà, donc on lance le morceau. Vous avez rien à rajouter, l'ombre du 8 ?
Si, spéciale dédicace à Stéphane Verdès qui m'écoute.
Et on se quitte sur la
pesanteur.
On se quitte sur un dernier morceau, La Pesanteur, et ensuite ce sera Killa Soud Massive. À la semaine prochaine, 14-15. Et je me souviens plus qui je reçois la semaine prochaine.
Merci à tous.
Merci à vous, l'ombre du 8, d'être venu dans le studio.
Merci.